Oblique. 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 L'émission qui regarde le cinéma de travers.
Il existe une société secrète qui envahit peu à peu nos villes.
Ni des hommes, ni des animaux, mais quelque chose qui est entre les deux.
Bonjour à toutes et à tous, hein, bonjour à toute l'équipe. Oblique vous accueille comme chaque semaine dans les studios Divergence. Et petit mea culpa, j'avais oublié la semaine dernière de remercier l'équipe et les partenaires. Hein, donc si jamais on oublie, on remercie Anna et Adeline à la technique, comme ça c'est fait. Voilà.
Merci.
Alors avec les chaleurs qui arrivent tranquillement et sûrement loin des salles climatisées, nous avons eu l'idée saugrenue ou ingénieuse, je ne sais pas, d'aller faire un tour du côté du monde insolent et iconoclaste de Jess Franco, l'un des papes du cinéma bis et du cinéma évidemment érotique. Alors ce qui nous intéresse vivement aujourd'hui, avec les sorties conjointes chez Artus de 99 femmes, Justine et le trône du feu. Alors vraiment bien, les nombres impairs, je vais vous parler de 99 femmes. Et toi Victor ?
Eh bien tout naturellement je vais parler de Justine.
Et Yann, toi tu relèves un peu le niveau je crois.
Oui on verra, donc ce sera sur la deuxième partie sur Arthur Honegger, compositeur au cinéma.
Mais tout de suite on retrouve Justine pour l'agenda ciné de la semaine.
No one knew.
Bonjour tout le monde. Alors déjà pour commencer, ne manquez pas le week-end d'ouverture du festival Images Singulières qui aurait lieu du 26 au 29 mai à 7. Ce festival de la photographie documentaire nous a concocté un sympathique programme avec notamment des soirées de projection, des rencontres débats, de la musique et bien sûr des expositions. Énumérer le programme complet du festival prendrait presque la totalité de l'émission, donc je vous invite plutôt à aller sur le site imagesingulières.com pour consulter le programme du festival. Le samedi 28 mai à 21h au Spot, situé quartier Gambetta à Nîmes, vous trompez pas, pas Montpellier, aura lieu un ciné-concert Frankenstein organisé par Les Enclumés, une compagnie de spectacles vivants et arts plastiques. Et attention, ce n'est pas n'importe quel Frankenstein. La compagnie interprétera la première adaptation au cinéma du livre de Mary Shelley, tourné en 1910 par James Searle Dowley. Un film longtemps porté disparu et qui a fait partie des films perdus les plus recherchés. À partir du lundi 30 mai jusqu'au dimanche 5 juin, le cinéma Gaumont Multiplex, après nous avoir replongé dans les années 80 avec son cycle Back to the 80s, continue sur sa lancée avec cette fois-ci le démarrage du cycle Back to the 90s. Au programme, certains des films les plus emblématiques des années 90, comme par exemple Forrest Gump, Batman le Défi, The Big Lebowski et bien d'autres encore. Pour le programme complet, vous pouvez consulter la page Facebook du Gaumont Multiplex de Montpellier. Jeudi 2 juin à 20h, le cinéma Utopia projettera le film « Et j'aime à la fureur » et sera suivi d'une rencontre avec André Bonzel, le réalisateur. La séance sera présentée et animée par Jean Aubert, enseignant en cinéma. Dans ce film documentaire, André Bonzel utilise des films de famille, aussi bien les siens que ceux d'anonymes, sur lesquels il raconte un récit autobiographique à la première personne par le biais de la voix off. Alors toujours jeudi 2 juin à 20h, mais cette fois-ci au cinéma Diagonale, ce sera l'avant-première du film « Je tremble au Matador » de Rodrigo Sepúlveda. La séance sera suivie d'un échange avec les bénévoles de l'association Thea Vida dans le cadre de la 15e édition des Vida Festives Bouquet de Flores qui a lieu du 25 mai au 11 juin. L'histoire se passe au Chili en 1986 et raconte l'histoire d'un travesti sur le déclin et d'un révolutionnaire idéaliste qui s'engagent tous les deux dans une opération clandestine à haut risque en pleine dictature. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Justine. Et tout de suite, on va retrouver le monde merveilleux de Jess Franco avec, en débutant, 99 femmes. « Le titre du film, 99 femmes, alors pour ceux que ça intéresse, hein, correspond au nombre de femmes qui se trouvent envoyées au pénitencier Castillo de la Muerte au milieu du Pacifique. Alors dirigé d'une main de fer par la directrice Diaz, alors présentée à l'écran comme le summum de l'anti-glamour, hein, renfermant en elle 50 ans de frustration sexuelle et de rancœur en tout genre. Elle n'hésite pas d'ailleurs à abuser sexuellement des prisonnières avec la complicité du colonel Santos, alors sans paraître spécialement émue, hein, qu'un peu comme une fonctionnaire qui fait son travail quotidien. Devant la série de morts inexpliquées au sein de l'île, le gouvernement envoie donc sur place l'inspectrice Léonie chargée de faire un rapport suite à son enquête. Alors bon, dit comme ça, j'en vois, ou enfin plutôt j'entends, certains qui salivent d'avance à la vision prochaine, j'espère, de ce 99 femmes réalisé par le staccanoviste Jess Franco, l'homme capable d'enchaîner parfois 15 films en un an. Alors le film appartient à un genre particulier, hein, le WIP, Woman in Prison, soit le film de prison de femme, un sous-genre en soi qui a jalonné l'histoire du cinéma des années 30 à aujourd'hui, hein, et ce, aussi bien en Europe, Asie ou États-Unis. Des auteurs reconnus en ont même commis, hein, comme Edgar Ulmer avec Girls in Chains ou encore Jonathan Demme avec Cinq femmes à abattre, une production Corman. La recette est simple, mais le résultat a géométrie très variable. Il s'agit d'enfermer souvent des jolies filles dans une prison sordide et de leur faire subir des humiliations par un personnel particulièrement sadique, du directeur au simple gardien. Avec souvent des moments qui reviennent, comme les séquences saphiques, les scènes de douche, souvent gratuites, et les dérives SM agrémentées de quelques meurtres bien crapuleux. Le prétexte étant souvent de dénoncer les conditions de vie dans les prisons, mais pas besoin d'avoir beaucoup d'imagination pour s'en douter, en fait. Hein. Alors, pour reprendre le fil, vous devez saliver à l'avance, surtout que Jess Franco est devenu, par la suite, un spécialiste du genre. Mais, oui, il y a un mais, 99 femmes, et son premier, donc, du genre, et sans doute son plus soft en matière d'érotisme. Il est aussi assez peu violent, comme la plupart d'ailleurs des films de l'Espagnol, hein, qui, faut-il le rappeler, n'est absolument pas attiré ni fasciné par le sang et la violence sous toutes les formes, mais davantage par la beauté plastique des femmes.
First, the fox. Then, Teresa and Isabel. And now...
Donc, que reste-t-il à regarder, me direz-vous ? Eh bien, un drôle de film, alors visuellement très beau, utilisant à merveille les décors naturels dans lesquels se déroule une intrigue peau de chagrin, mais ça, les connaisseurs le savent très bien, Jess Franco se moque souvent de ses histoires. En revanche, ce qui transpire dans 99 femmes, c'est son amour des femmes, dont il filme aussi bien les corps à moitié dénudés, donc jusque-là rien de surprenant, que les visages tristes maltraités par un système patriarcal. Oui, osons le dire, ce WIP déroule non seulement un message féministe, mais aussi anarchiste, amorçant en fait l'idée qu'une prison est une prison, donc un problème en soi. La rendre plus humaine et acceptable n'a aucun sens, ça ne devrait pas exister car oppressant même à visage humain. L'inspectrice en fera par ailleurs les frais, se rendant compte de son échec en voulant aider les prisonnières. Il y a une vision du monde assez buñuelienne, hein, qui infuse dans l'œuvre de Franco, puisque justement cette inspectrice, plus elle a envie de les aider et moins ça marche en fait. Ce qui surprend aussi, au-delà de certains codes du genre respectés, c'est la candeur et l'absence de sadisme d'un film jamais racoleur, toujours décalé, ne se prenant pas au sérieux, à l'image de l'arrivée des nouvelles prisonnières, hein, debout déjà sur une barque, où l'on remarque aussi que l'une d'entre elles est encore vêtue d'un costume de cabaret. Alors niveau réalisme, on a quand même fait mieux. Hein. Cette séquence d'ouverture, alors limite surréaliste, donne le ton à un divertissement pour adultes tout à fait recommandable, qui se termine toutefois dans l'amertume avec une fin assez nihiliste. Alors pour relancer aussi le rythme un petit peu mou du film, hein, parce que une heure dans une prison avec les mêmes scènes qui se respectent, c'est un petit peu long. Jess Franco s'engouffre alors du côté du cinéma d'aventure à l'ancienne avec une évasion rigolote des détenus soudainement parachutés en pleine jungle. Enfin, une jungle à la Franco avec deux arbres et trois animaux. Hein. Bref, une œuvrette à l'ancienne, anachronique, hein, mais pleine de charme, qui bénéficie aussi d'un drôle de casting, puisqu'on y retrouve notamment Herbert Lom, le commissaire dans La Panthère Rose, et l'excellente actrice Maria Schell, habituée à un cinéma plus prestigieux et dont on se demande ce qu'elle fait là. Peut-être qu'elle s'amuse dans cette production Harry Alan Tower, producteur curieux et très prolixe, qui a permis à Franco de réaliser finalement des films bénéficiant d'un budget plus confortable, toute proportion gardée. Donc le film, est évidemment, on le redira plusieurs fois, a été édité donc, chez Artus en DVD Blu-ray. Et ben, je te laisse la parole, Victor, oui, pour la suite.
Puisque c'est justement d'une autre production de Harry Alan Tower, et donc toujours réalisée par Jess Franco, que je vous propose de parler maintenant. Donc une adaptation de Sade avec Justine ou les Infortunes de la Vertu. Là, pour le coup, c'est un peu l'opposé. On est vraiment sur le plus gros budget hein, du coup, de Jess Franco de toute sa carrière. Avant de se lancer dans la chronique, je préfère vous prévenir, je vais divulguer la fin. Mais qu'importe de connaître l'issue du récit, puisque chez Sade, comme chez Mel Gibson, l'essentiel, c'est que les personnages souffrent le plus possible.
Enfin portée à l'écran, une œuvre qui valut la prison à son auteur. L'auteur, Sade. L'œuvre, Les Infortunes de la Vertu.
Justine et Juliette sont donc deux sœurs qui se retrouvent orphelines et désargentées, complètement livrées à elles-mêmes. Juliette, elle va choisir la voie du vice et s'engager dans une maison close dans laquelle elle va évoluer, tracer son chemin, ne pas hésiter pour s'enrichir à tuer des rivales ou des clients. De son côté, Justine va décider de rester vertueuse, et c'est justement ce qui va la conduire entre les griffes des plus grands tordus de cette planète. Le film est justement constitué d'une espèce de suite de scénettes au cours desquelles on découvre les mésaventures de Justine qui se retrouve à se faire voler, à se faire vendre, à se faire battre par toute une galerie de veules personnages. Donc ça, en ça, c'est relativement fidèle au roman d'origine le film conserve en fait cette idée de prendre plaisir à regarder l'ingénue jeune fille à se jeter dans la gueule du loup. Par exemple, après avoir naïvement donné son pécule à un prêtre qui s'avère être un voleur, elle trouve refuge auprès d'un hôtelier qui va tenter de la prostituer. Avant de la faire accuser de vol, puis condamnée à mort, elle se retrouve mise en prison, elle va essayer de s'échapper avec une codétenue, une fois échappée, la codétenue va essayer de la livrer à une bande de violeurs, et ainsi de suite. Le film dispose de moyens donc assez confortables, hein, comme t'en parlais Manu, grâce au producteur Harry Alan Tower. Franco va en profiter pour le coup pour mettre en scène son film de manière plus académique. Outre l'argent alloué au film, il y a aussi le fait d'avoir une intrigue un peu plus vaste que par exemple dans un film de prison, qui permet à Franco de s'éloigner en fait de son cinéma habituel. Attention, quand je dis qu'il s'éloigne de son cinéma habituel, c'est pas pour dire que c'est nécessairement un défaut. Dans une filmographie aussi conséquente que celle de Franco, découvrir un film un petit peu plus classique avec un rythme plutôt soutenu et même beaucoup d'humour, c'est assez plaisant. D'ailleurs, chaque scénette dispose de son propre décor, généralement un décor naturel assez somptueux, et justement choisi pour son caractère irréel. Je pense surtout en fait à l'arrivée de Justine dans un monastère tenu par une bande de moines pervers, où chaque pylône est stylisé à l'extrême, ou aussi également un château qui ressemble à s'y méprendre à une espèce de pièce montée. Pour ce qui est de l'aspect adaptation, on est très très loin de l'œuvre vraiment sadienne, c'est beaucoup plus gentil, c'est beaucoup plus soft. Par exemple, justement, le séjour de Justine chez les prêtres libertins et tortionnaires, dans le roman, elle se retrouve enfermée là-bas pendant plusieurs mois, elle est violée à répétition et ne s'échappe que difficilement. Donc dans le film, Justine, après avoir eu une simple discussion avec le gourou de cette étrange secte, donc interprété par un Jack Palance en roue libre totale, remet en question sa vertu et puis devient la muse du chef de ce culte qui, au lieu de simplement la violer à répétition, décide de simplement la sacrifier. Au cours d'une cérémonie qui va être interrompue en fait, par une énorme tempête dans une scène définitivement outrancière. Là, pour le coup, donc, cette idée d'un espèce de courroux divin qui va s'abattre sur les pêcheurs, c'est évidemment une trahison de l'esprit de l'auteur d'origine, mais c'est également ce qui fait le caractère de ce film un petit peu schizophrène. On va retrouver un petit peu plus la mise en scène habituelle de Franco dans les scènes mettant en scène Sade en train de rédiger son texte, un Sade naturellement interprété par le tout désigné Klaus Kinski. Et dans ces scènes, on va retrouver vraiment la mise en scène un petit peu rapide, clairement improvisée, faite de zoom, de vision fiévreuse, de mise au point un petit peu aléatoire et d'apparition de femmes spectrales aussi belles qu'inquiétantes. J'aimerais pour conclure en fait cette chronique revenir sur ce qui est de la foudre qui dans le film vient délivrer Justine, alors que dans le roman c'est ce qui vient conclure le film. Alors attention, divulgachage en règle. Chez Sade comme chez Franco, la fin des infortunes de Justine arrive avec les retrouvailles avec sa sœur. En effet, la mauvaise vie de Juliette va la conduire, elle, à épouser un noble et mener une vie de château. Et elle va essayer de récupérer sa sœur pour la mettre à l'abri de toutes ses tourmentes. Dans le roman, après une petite semaine de repos, Justine sort et contemple la nature avant d'être brutalement frappée par la foudre. Ultime coup du sort pour une femme dont la vertu aura été l'aimant, ou plutôt le paratonnerre de tous les vices. En tout cas, la foudre chez Sade n'est pas nécessairement imputable à Dieu. J'aurais davantage tendance à parler de fatalité ou même carrément de gag ou de plaisir très sincère de l'auteur à tordre le cou à toutes les conventions du roman d'apprentissage, dirons-nous. Chez Franco, du coup, contrainte imposée par les producteurs, il se retrouve à être obligé de faire un happy end au cours duquel Justine se retrouve mariée à un gentil peintre et coule des jours heureux. Mais le cinéaste, quand même... fait un ultime pied de nez et donc tourne un petit épilogue dans lequel on voit Kinski en Marquis de Sade, donc, qui est à bout de force et qui se saisit une dernière fois de sa plume pour rayer la fin de son texte et donc potentiellement la fin du film, laissant à ceux qui le désirent le choix de transformer cet ultime happy end, cette rature du coup, en l'éclair qui aurait dû frapper Justine.
D'ailleurs, en interview, il y avait un truc marrant parce que tu parles de la forme qui est propre et lui disait qu'il savait faire des bons films propres, tout ça, mais il disait, mais quel intérêt ? C'est une réponse assez marrante. Je sais faire des bons films, mais pourquoi je les ferais alors que j'aime tourner simplement.
Il y en a d'autres qui les font, voilà.
Voilà, c'est une réponse curieuse, mais typique de son réalisateur.
De l'assistant Wells. Voilà.
Et donc on va écouter une interview, c'est ça ?
Oui, exactement. Donc continuons donc avec Dujes Franco. Et donc impossible d'évoquer ce réalisateur sans parler d'Alain Petit, puisque c'est un peu l'expert sur le sujet en France. Il a même rédigé un livre assez colossal de plus de 700 pages, même si finalement 700 pages, quand on mesure la taille de la filmographie, 250 films, c'est relativement normal. Nous avions déjà parlé d'Alain Petit dans une émission précédente, puisque c'était l'invité d'un festival que nous organisions, qui s'appelle Orgie Filmique. Mais quand même, on va resituer un petit peu le monsieur, parce que au-delà de sa collaboration avec le cinéaste espagnol et le fait qu'il en soit un éminent expert, il a été également important pour la découverte du cinéma fantastique en France. Il a notamment fondé la revue, le fanzine Le Masque de la Méduse. Il a également participé dans les premiers temps à Mad Movies. Et ça a été également un collaborateur assez proche de Jean-Pierre Dionnet sur l'émission Cinéma de quartier sur Canal+. Donc du coup, dans l'extrait que vous allez entendre, il va raconter ses premières expériences avec Jess Franco. Alors comme j'ai voulu mettre l'accent sur une anecdote en particulier, j'ai coupé toute la partie où il raconte sa rencontre avec Jess Franco. Et là, au moment où on commence cet extrait, ça y est, le rendez-vous est pris. Alain Petit va enfin rencontrer son idole.
Je me suis retrouvé comme ça, rendez-vous avec Jess Franco à 10h du matin dans son hôtel parisien. Et là, ça a été un autre coup de foudre, quoi, parce que lui, il rencontrait un fan français... Et moi, je rencontrais le cinéaste qui me fascinait le plus, quoi. Et donc, on a discuté comme ça, mais sans manger, entre 10h du matin et 5h du soir. Et il avait tellement de questions à lui poser, il avait tellement de trucs à me dire. Finalement, il a dit, bon, écoute, je reprends l'avion pour Madrid, là, tu vas m'accompagner dans le taxi, et j'ai un truc à te demander. Et donc, dans le taxi, il m'a dit, voilà, d'ici 3-4 jours, il faut que je donne un scénario de... le film de prison de femme, un producteur français, j'ai pas le temps de l'écrire, j'ai pas le temps... Est-ce que tu veux bien le faire ? Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? T'as déjà vu les films de prison de femme ? J'ai dit, bah oui. Bah, tu fais la même chose, il faut qu'il y ait une scène de lesbianisme, il faut qu'il y ait... Mais là, dans celui-là, je veux qu'il y ait un hold-up au début. Voilà, c'est un hold-up qui tourne mal, et après, là, on se retrouve en prison. Voilà. Donc, moi, j'étais complètement excité comme une puce à la veille d'une exposition canine, hein.
Il s'agit de quel film d'ailleurs ?
Alors, c'est un film qui ne s'est pas fait.
C'est pas fait, ouais, voilà.
C'est un film qui ne s'est pas fait. Je lui ai envoyé tout de suite le fruit de mon travail. Et puis, il me rappelle une dizaine de jours après. Il dit, écoute, je suis à nouveau à Paris. Là, ton scénario, c'est très, moi, très, 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 très bien. Tout. Mais là, justement, je suis avec le producteur qui voulait le faire. Et il ne veut plus faire un film de prison de femme. Voilà. Donc, mais viens, il faut qu'on se voie. Voilà. Et puis, bon, bah, on s'est revus. Et puis, après, il m'a dit, bon, là, il y a un film qui va se faire, c'est sûr, je viens de signer le contrat et tout, mais j'ai besoin de quelqu'un qui m'écrive le dialogue français. Quoi. Alors, est-ce que tu... C'était plaisir à trois. Voilà. Et donc, j'ai rencontré le producteur, et puis, qui m'a donné son accord, quoi, pour que je fasse le boulot. Donc, Jess m'a remis un synopsis qu'il avait écrit, déchiffrait Jess Franco qui était espagnol, qui parlait très bien français, mais au niveau de l'écriture, c'était pas tout à fait ça. Et donc, voilà, ça a été le début d'une, pas d'une collaboration très suivie. Hein. J'ai dû écrire trois fois des dialogues pour lui. Mais
tu as aussi participé en tant qu'acteur sur
quelques films. Oui, il m'a fait jouer.
Il fallait pas que. Il y a eu plusieurs personnalités françaises d'ailleurs, dont Jean-Pierre Bouixou aussi.
Oui, Jean-Pierre Bouixou, qui était son fan en Belgique, il l'a fait jouer dans La Comtesse Noire, oui, il jouait le rôle du fils du docteur Orloff, j'étais très jaloux. Il a fait jouer le rôle du fils du docteur Orloff. Moi, il m'a fait jouer le rôle d'un adepte du marquis de Sade dans un truc qui s'appelait Juliette de Sade, qui est sorti en France, malheureusement. Et puis, il m'a fait jouer après dans Midnight Party,
où tu chantes.
Où je chante, oui. Il m'a fait jouer le rôle d'un. À l'époque, j'avais pas la boule à zéro, j'étais pas. J'avais les cheveux très longs qui tombaient dans le dos et j'avais l'apparence d'un. Un hippie, quoi, il n'y a pas à chier, hein. C'était ça, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, il m'a donné le rôle d'un chanteur pop, anarchiste. Et il m'a même fait chanter la chanson du film, quoi. Donc,
qui s'appelle d'ailleurs.
Qui s'appelle La vie est une merde, et c'est toujours d'actualité.
Et on la trouve d'ailleurs sur YouTube.
En ce moment, on a du mal à la trouver. Il faut taper le titre du film, mais pendant un moment, oui, parce que à ma plus grande surprise, moi je pensais que. Parce que avec Jess, à l'époque, c'était tellement facile de jouer dans un film. Il n'y avait pas de rôle à apprendre, il n'y avait rien, c'était. Les films étaient pris en muet, donc on nous mettait en situation. Et puis il y avait la femme de Jess, qui servait aussi de secrétaire, qui disait le dialogue. Et on se contentait de le répéter. Donc on gagnait un temps fou, quoi. Il n'y avait pas de texte à apprendre. On se marrait, quoi. C'était vraiment très drôle. Et donc, un jour, il m'a dit, bon, t'es chanteur, tu vas chanter, quoi. Ça a été entendu comme ça, quoi. Et donc, je me suis retrouvé sur la scène d'un truc, et j'ai dit, qu'est-ce que je chante ? Il dit, ah oui, qu'est-ce que tu chantes ? Ah, et bon, t'es anarchiste, t'es gauchiste, pendant tout le film, j'arrêtais pas de traiter les gens de sales capitalistes, et il dit, bah, tu vas chanter. Alors, il réfléchit deux secondes, il dit, tu vas chanter, merde, 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 la vie est une merde, chiotte, 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 la vie est une chiotte, chiotte, merde, chiotte, la vie est une chiotte.
Grand accent.
Voilà, alors bon. Donc on le fait. Hein. Alors on a fait la version rock, et après on a fait la version blues. Et il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de son témoin. Donc j'ai dit, comment on va faire ? Il dit, t'inquiète pas, tu te débrouilleras avec le mec qui fait la musique, c'est un ami et tout. Je vais lui donner ton téléphone et tu te démerderas avec lui. Donc voilà, et puis un mois après, j'ai été contacté par le compositeur de la musique, quoi, j'étais le voir et tout. Je lui ai raconté l'histoire, il a éclaté de rire, bien sûr. Et puis il a dit, bon, bah écoutez, vous avez une convocation pour enregistrer en studio, quoi. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé au studio Vogue à Paris, qui était le studio qui enregistrait quand même Antoine Dutronc, François Hardy, Signe de Béché et Django Reinhardt éventuellement, hein, à l'époque. Donc voilà, c'était une histoire incroyable, quoi, parce que je suis resté dans tout et pour tout 15 minutes dans le studio. La première prise, c'était la bonne, quoi. Moi, j'étais catastrophé parce qu'on avait un écran qui passait les images et Jess avait fait son montage. Mais il n'avait pas tenu compte du rythme de la chanson et tout. Donc, ce qui fait que quand j'ouvrais la bouche devant le micro, je la fermais sur l'écran, quoi. C'est une catastrophe totale. Alors, je dis non, il faut le refaire et tout. Les mecs, ils étaient déjà en train de remballer leurs instruments. Daniel White, qui était le compositeur, il m'a dit, vous savez, les gens qui vont voir ce genre de film, la musique, ils en ont rien à foutre.
La vie est une merde. La vie est une chiotte. Chiotte, merde, chiotte. La vie est une chiotte. Chiotte, chiotte, chiotte.
Je vous présente Red Nicolas. Il était un de mes petits amis. Un peu contestataire sur les bords, mais foutrement bien monté. C'était un compositeur et un parolier vraiment doué.
Arthur Honegger, compositeur au cinéma, deuxième partie. Trois extraits, on va reculer dans quelques décennies et on commence en 1935. Tout est lié dans Oblique, hein, parce que après la chronique de Justine, qui a quand même déjà un parfum sadien, après Jazz Franco, eh bien, c'est au tour de Crime et Châtiment qu'on vient. C'est une adaptation de 1935 de Pierre Chenal. La musique, Arthur Honegger. L'instrument qu'on a entendu, l'instrument électronique, c'est une onde Martenot. Donc déjà, il y a la modernité. Avec l'aspect très illustratif, le coup sonore qu'on entend, c'est au moment du crime de Raskolnikov, qui est interprété par Pierre Blanchard. Et cette modernité et ce classicisme sont tout à fait caractéristiques de Honegger, hein, et des autres compositeurs du groupe des Six. Une ambivalence propre au cinéma, un art moderne qui a vocation populaire, c'est l'ambivalence aussi de Honegger, qui va signer depuis l'époque du muet beaucoup de bandes originales. On va faire maintenant un petit tour en Angleterre.
Repeat after me. The rain in Spain.
The rain in Spain.
Stays mainly in the plains.
Stays mainly in the plains.
The rain in Spain stays mainly in the plains.
The rain in Spain stays mainly in the plains.
Now, Eliza, you see these three marbles?
Yes.
I want you to put them in your mouth. Yes, one. Two, three. Now don't be alarmed, it's just an exercise. Now then, repeat slowly after me. The shallow depression in the west of these islands is likely to move slowly in a westerly direction.
The shallow depression in the west of these islands is likely to move. Look.
Alors ça, c'est une scène assez drôle d'un film de 1938, Pygmalion, de Anthony Asquith et Leslie Howard. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est une séquence de répétition. Repeat after me, il y a cette phrase, the rain in Spain, stay mainly in the plains. Et c'est une scène quasiment de torture. Et on est encore dans le registre sadien. Hein, déjà avec ce deuxième extrait. Ce film, le Pygmalion, je ne vais pas vous raconter le pitch, mais en fait, il y a une adaptation d'une pièce de George Bernard Shaw, et en fait, qui a donné naissance à une autre adaptation plus connue de George Cukor. C'est My Fair Lady avec Audrey Hepburn et Rex Harrison. Et la scène justement de répétition est encore plus drôle. À la fin, on la voit en fait de cet extrait, elle est en train de répéter des choses avec des billes dans la bouche. Évidemment, il y a une bille qui va être avalée. La partition musicale très très contrastée, très dynamique, hein, on pouvait entendre, très sophistiquée. On va finir avec un dernier extrait du côté de l'Italie, hein, cette fois-ci avec une musique beaucoup plus dramatique. Et encore un parfum sadien, puisque c'est l'oratorio Jeanne au bûcher, sur un texte de Paul Claudel. En fait, c'est une partition de 1938 qui a été reprise par Roberto Rossellini pour son film de 1954 avec Ingrid Bergman. Ingrid Bergman qui avait déjà interprété Jeanne d'Arc dans le film de Victor Fleming en 1948. Ce Jeanne d'Arc était trop ripolliné, ça ne lui plaisait pas. On sait la suite, elle est partie en Italie. Elle a rencontré Rossellini. Ça a été le couple un peu le couple terrible, quoi. Et ça a été Jeanne au bûcher. C'est le dernier film de Rossellini avec Ingrid Bergman. Et cette musique n'est pas une musique originale pour le film parce que c'était composé bien avant. Mais Rossellini a repris l'oratorio de Arthur Honegger et le texte de Paul Claudel. On écoute un extrait.
Che mi trattengono.
Et
Et l'émission se termine. On vous retrouve au complet la semaine prochaine avec de nouvelles surprises et certainement des sorties ciné. Donc toute l'équipe se joint à moi pour remercier Adeline et Anna Technique.
Merci.
Les cinémas Divergence, Artus Film bien sûr, sans qui l'émission n'aurait pas eu lieu. Et puis je vous dis à tous les quatre, à la semaine prochaine.
À la semaine
Salut,
prochaine.
À la semaine prochaine.
Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.